Bon, il est 13h22, Phoenix. Vous êtes nombreux à avoir été touchés par Phoenix. Vous avez reçu trop d'argent. Vous n'avez pas reçu d'argent. Vous avez reçu pas assez d'argent. On s'est trompé dans votre classification. On vous a donné des acting quand vous ne l'étiez pas. Vous n'avez pas eu quand vous l'étiez. C'est un bordel. Il y a pas mal de monde qui sont affectés de cela. Mais la petite histoire fait en sorte que tout ça a commencé chez les conservateurs. On voulait tenter de remettre un peu d'ordre là-dedans. C'était un système informatique qui datait très longtemps. Puis on disait, on va centraliser ça. Ça va être bien plus facile de gérer la paye quand même. Gérer la paye, on est en 2018, il n'y a rien là. Ouais, il n'y a rien là. Alors, les conservateurs ont retardé deux fois la mise en application du système. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. Puis malgré des lumières oranges sur le tableau de bord, ont décidé de peser sur le bouton magique Go. Bien, le Go s'est avéré un fiasco. Et aujourd'hui, le vérificateur général, pour une deuxième fois, se penche sur les problèmes de Phoenix. Aujourd'hui, donc, Michael Ferguson, le vérificateur général du Canada, dépose, et vérificateur général du Canada, on sait qu'il fait de la vérification de différents domaines, mais notamment de la vérification financière, des états financiers du gouvernement du Canada, mais également de la vérification d'optimisation des ressources, notamment pour regarder l'efficience, l'économie et l'efficacité des pratiques de gestion au fédéral. Aujourd'hui, il dépose 7 rapports qui abordent notamment le système de paye Phoenix, l'administration de la justice militaire, le remplacement du pont Champlain à Montréal, l'aliénation des biens et du matériel excédentaire du gouvernement du Canada, les services consulaires aux Canadiens et aux Canadiennes à l'étranger, ainsi que les écarts socio-économiques des membres des Premières Nations dans les réserves. Et en terminant, le 7e rapport parle de la formation à l'emploi pour les Autochtones. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux sujets. Et en passant, j'ai abdiqué. J'ai lancé la serviette. Lorsqu'on tente d'avoir le vérificateur général à l'émission. Ça fait depuis, mon Dieu, 7 ans qu'on tente de l'inviter. Et c'est toujours la même réponse. Non. Puis pas juste moi. Là. Il a une horreur du français. Il ne peut pas sortir de son script. Il a toute la misère du monde à lire un texte en français. Imaginez-vous remplir ou répondre à des questions en français. Et ça m'amène à vous dire combien les officiers de la Chambre des communes doivent d'office être bilingues. C'est un non-sens consommé de nommer, par exemple, un président d'élection, un directeur général d'élection, un vérificateur général, nommer, par exemple, des juges à la Cour suprême, des gens qui ont une fonction très importante, de les nommer alors qu'ils ne sont pas bilingues quand on est au Canada. Et Michael Ferguson est l'exemple frappant là, de cet anglophone qui a eu un job qu'il ne méritait pas à cause de son incapacité de s'exprimer en français, bien que je reconnaisse qu'il a fait des efforts. Sauf que pendant qu'il fait des efforts à apprendre le français, il ne fait pas sa job. Et moi, comme contribuable, quand on est vérificateur général du Canada, il me semble que tu es mal placé pour dire que, alors que moi, je suis supposé vérifier l'efficacité, l'économie puis l'efficience des systèmes, non. Moi, je vais prendre de l'argent public pour me former en français parce que je suis trop incompétent en français jour 1 de ma job. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, dans cette équation-là. Quand tu vis dans une maison de verre, tu ne gâches pas de roche. Michael Ferguson vit dans une maison de verre linguistique et gâche des roches. Alors, je veux me consacrer donc à deux aspects du dépôt aujourd'hui, notamment le système de paye Phoenix, mais également la question du pont Champlain. Ça avance tranquillement. On va être en retard, ça va coûter plus cher. Quelle histoire, comme d'habitude, malgré que c'est en PPP, soit dit en passant. Éric Charron était au point de presse ce matin de Michael Ferguson, où on a expliqué les ratés du système de paye Phoenix. Il est avec moi. Salut, Éric.
Salut, Rock.
Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit, notre Michael Ferguson?
Écoute, il y a peut-être une bonne raison pourquoi il n'est pas en entrevue avec toi. C'est que lui, il parle d'un échec incompréhensible. Donc, si lui ne comprend pas pourquoi tout ça a échoué, je le vois mal te l'expliquer. Mais bref, on cherche des boucs émissaires. Les syndicats le demandent. Depuis cette fin de semaine, on veut savoir à qui la faute. Et finalement, on a identifié 3 hauts fonctionnaires de Service public Approvisionnement Canada qui seraient à l'origine du fiasco pour la simple et bonne raison que dans la transition entre les deux gouvernements, il n'y a pas les suivis nécessaires qui ont été faits. Puis ces gens-là, pour se protéger, auraient omis de transmettre certaines informations très sensibles sur de possibles échecs dans le système aux nouvelles autorités en place. Donc, nouveau ministre, on devait rendre des comptes aux sous-ministres et on a essayé de se protéger pour dire non, non, tout va bien, quand finalement, c'était pas le cas, puis il y avait des problèmes à régler. Donc, ce qui fait en sorte qu'au sommet de la pyramide de l'administration publique, on pensait vraiment de bonne foi que ça allait fonctionner parce qu'on avait été informé de façon erronée. On a décidé d'aller de l'avant et finalement, ben, on se retrouve avec 156 000 fonctionnaires qui ont des problèmes avec Phoenix. Il faut rappeler que c'est le système de paye de 46 ministères et organismes sur 101. C'est la moitié de la fonction publique qui est aux prises avec ces problèmes-là. Puis là, on est pris devant la situation. Tout ça parce que la transition s'est mal faite. Puis je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, mettons, on devait aller avec la mise en œuvre comme prévu en février 2016. Puis juste avant février 2016, qu'est-ce qu'on avait en novembre? En novembre 2015, c'était les élections. Puis avant les élections, on avait la campagne électorale. Fait que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est-tu possible que l'ancienne administration Harper se soit dit que on va régler ça après les élections, puis on verra où est-ce qu'on est rendu, quitte à encore reporter, encore une fois, l'application du système. On va régler ça après les élections si on est reporté au pouvoir. Puis si c'est Trudeau qui gagne, quelqu'un d'autre qui gagne, Mulcair dans ce temps-là, ben ils s'arrangeront avec leurs troubles. C'est un peu ça qui est arrivé, là. T'sais, les libéraux ont été élus, ils se sont fait dire qu'ils pouvaient aller de l'avant, puis finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont été mal informés par des hauts fonctionnaires, trois hauts fonctionnaires qui voulaient se protéger. En tout cas, je vais vous laisser écouter Michael Ferguson, ce qu'il avait à dire là-dessus.
La décision de déployer Phoenix n'est pas documentée. Étant donné les informations connues à l'époque, nous jugeons que la décision de déployer Phoenix n'était pas raisonnable. Le système Phoenix ne fait pas ce qu'il devait faire. Il a coûté des centaines de millions de dollars de plus que prévu et il a eu des conséquences négatives pour des dizaines de milliers des fonctionnaires fédéraux et leurs familles.
Ouais. Encore là, moi, comprenant un petit peu d'où ça vient tout ça, quand on a un vérificateur général qui, pour dans le fond, émettre une opinion sur un système de paye complexe puis aussi bâclé et fiasco que Phoenix, arrive à la conclusion que les décisions d'implanter Phoenix n'étaient pas documentées. Hey, grosse annonce, petit magasin. Ouais. Si c'est le mieux qu'il a été capable de faire, là, ça, c'est la première chose. Alors, vérificateur général qui, dans le fond, son gros constat, c'est c'était pas documenté.
C'est un échec incompréhensible. Ouais. Je le cite mot pour mot, là.
Ouais. La deuxième chose, c'est sur l'histoire des fonctionnaires qui ont mal informé leur sous-ministre puis ultimement le ministre, là, parce que ultimement, c'est le ministre qui est imputable devant le Parlement. Fait que j'enlèverai pas la responsabilité ministérielle, là. Mais est-ce que vous avez abordé, parce que est-ce que premièrement, les trois employés, j'ai de la misère à croire qu'un système aussi gros relève de trois employés, mais disons que trois employés, est-ce que vous les avez nommés?
Il n'a pas voulu les identifier, puis il n'a pas voulu dire s'ils ont été sanctionnés.
Ben, c'est ça. C'est ça le problème au fédéral, comme dans beaucoup d'administrations publiques.
Ironiquement, la situation, selon lui, c'est un changement de culture.
C'est ça. Serait-il possible, parce que je ne sais pas si vous avez abordé ça, mais est-il possible que les trois individus en question, dans le moment là où ça s'implantait tout cela, est-il possible qu'ils aient su des bonnies?
Ben, je peux pas te dire que c'est impossible. On a posé la question, mais on n'a pas pu avoir la réponse.
Et vous avez posé la question?
Oui.
Et Ferguson ne veut pas répondre?
On nous a indiqué que c'était une réponse à poser au ministère de Services publics et Approvisionnement Canada et non à lui.
Parce que tous les... Ben, c'est pas à lui. Non, non. La question, c'était à lui. Il a décidé de ne pas vous répondre, ou bien parce qu'il ne savait pas, parce que son étude a été bâclée, parce que ça aurait été très certainement utile à la vérification. Si, non seulement... Ce sont trois fonctionnaires incompétents qui ont amené le Canada dans un fiasco. Mais au surplus, on a bonifié ces trois fonctionnaires. C'était un enjeu de gestion publique. Qu'ils ne disent pas publiquement le nom des fonctionnaires, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais encore une fois, c'est jamais à faute de personne au fédéral. Mais qu'ils disent pas les noms, peut-être. Peut-être. Comme vérificateur général, je vais m'acclimater de cela.
Ouais.
Mais qu'ils soient incapables de répondre à une question aussi simple que de dire est-ce que ces gens-là ont été bonifiés pour leur travail bâclé? Ça, il a encore échappé le ballon.
Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il faut un changement de culture où il y a une plus grande transparence puis une meilleure communication pour qu'il y ait des échanges d'informations entre les différents ministères, parce que là, tout le monde prenait la parole de Service public et d'Approvisionnement Canada pour se faire dire « Mais non, ça va fonctionner. Nos fonctionnaires nous ont garanti que ça fonctionnerait, mais finalement, mais ça n'a pas marché. »
C'est eux autres, le maître d'œuvre.
Ils travaillaient en silo. Oui, mais...
C'est eux autres, le maître d'œuvre.
Mais il n'y a pas eu de test. Il y a eu des tests qui devaient se faire, puis là, dans la transition entre les deux gouvernements, il n'y a pas eu les tests n'ont pas été faits.
Exactement.
Et là, on s'est ramassé comme ça parce que, justement, le système n'était pas bien rodé.
Mais ultimement, il y a quelqu'un qui a pesé sur le bouton go.
Oh, oui, puis écoute, c'est la responsabilité ministérielle, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ultimement, c'est la ministre à l'époque, puis l'ancien ministre sous les conservateurs, puis la nouvelle ministre. Ben,
non. Non.
C'est parce que.
Non, Eric. Mais, il n'a pas été implanté sous les conservateurs.
Mais il n'a pas été implanté, mais il a été développé.
Oui, mais
il y avait.
Non, mais jusqu'au moment où on décide là, le jour ultime de dire go, là, ça, c'est pas les conservateurs.
Non, ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas les conservateurs qui
ont. Ce sont les libéraux au pouvoir qui ont eu le choix, parce que tu as toujours le choix en politique, qui ont eu le choix de dire on paye sur le bouton ou on ne paye pas. Il y avait certains signaux devant eux qui disaient faites attention, c'est pas prêt cette affaire-là, il manquait des tests.
Tu as raison, ça, le vérificateur général l'a admis. On a été de l'avant parce qu'on ne voulait pas revenir devant le Conseil du Trésor pour demander des sommes additionnelles parce qu'il fallait compenser. On a laissé aller comme 1200 personnes là, qui s'occupaient des payes parce qu'on projetait d'aller de l'avant avec Phoenix. Puis là, il était trop tard pour reculer. Ou si on voulait reculer, il fallait aller voir le Conseil du Trésor pour dire on a besoin de plus d'argent pour réembaucher ce monde-là. Ils ne voulaient pas perdre la face. Ils ont continué, puis nous voilà.
C'est ça. C'est exactement. Ça. Mais quand tu dis « il », on va dire les vraies affaires, là, « il » étant le gouvernement actuel.
Oui, effectivement. Bon. C'est eux autres qui l'ont lancé, c'est eux autres qui l'ont implanté en bonne et due forme, formellement.
Comme je dis souvent, un rapport du vérificateur général, c'est fait pour ça. On regarde dans le rétroviseur. Est-ce que Michael Ferguson vous a au moins permis, parmi ses propos, à l'aide de ses propos, de regarder dans le pare-brise. Est-ce qu'on a regardé par en avant?
On est dans le brouillard le plus total. Quand on parle d'un échec incompréhensible, mais pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait pas où qu'on s'en va.
Mais quand on pose la question, OK, on fait quoi? Il répond quoi?
Il répond qu'il faut une meilleure transparence puis un meilleur échange d'informations entre les différents ministères puis que ceux qui ont caché de l'information auraient dû la partager, quitte à mal paraître. Mais il peut juste faire des recommandations, lui, puis on le sait, le VG...
Mais parmi les recommandations, est-ce que le vérificateur général dit scraper Phoenix?
Pas encore, parce qu'il faut quand même vivre avec la situation qu'on a là avant de le remplacer, même si c'est dans les intentions du gouvernement Trudeau d'éventuellement le laisser tomber. On est rendu où est-ce qu'on est rendu, puis il faut continuer. Pendant ce temps-là, Ferguson plaide pour un changement de culture.
Peut-être que c'était une raison culturelle, et je n'ai pas tous les détails, une réponse au sujet de quels sont les aspects de culture qui causent ce type de problème. Mais je pense que maintenant, c'est une bonne occasion pour le gouvernement peut-être de penser à cette question afin d'examiner la culture du gouvernement.
Dans le fond, c'est comment qu'on fait pour pas que nos employés nous comptent de la bouillie pour les chats pour qu'on paraisse mal comme ça. Il parle d'un échec incompréhensible. Demande-toi pas pourquoi tu comprends pas. Lui-même comprend pas.
Ouais, mais je suis pas sûr que c'est incompréhensible pour lui. C'est incompréhensible pour... C'est pas comprenable qu'il y avait autant de signaux pour nous aller de l'avant là-dedans. Mais moi écoute, moi je l'écoute, M. Ferguson, là, puis moi je me souviens, Ken Dye, Denis Desautels, Sheila Fraser. On est dans une autre ligue, là. J'écoute M. Ferguson, là. Quelle mollesse à comparer aux chiens de garde de Ken Dye, de Desautels et de Sheila Fraser. Penses-tu deux minutes? J'écoute ce gars-là. Penses-tu deux minutes qu'on aurait trouvé le scandale des commandites si Michael Ferguson était aux commandes du BVG? Voyons donc, je l'écoute, là. Alors, j'ai pas trop de détails de comment faudrait changer la culture, mais faudrait changer la culture.
Ça va être difficile de changer la culture. On a une transition qui n'a pas été effectuée entre deux gouvernements, puis c'est les deux mêmes maudits partis qui s'échangent le pouvoir depuis la création de la Fédération en 67.
Ben, c'est pas les partis qui s'échangent le pouvoir, hein, c'est les citoyens qui mettent les partis au pouvoir.
Ah, ça, c'est sûr.
Et ça sera les Canadiens qui décideront qu'ils vont prendre le pouvoir la prochaine fois. Maintenant, Pont-Champlain. Ouais. Pont-Champlain, pas des grosses nouvelles.
Non, on pense que ça va coûter plus cher, puis on pense qu'on ne pourra pas atteindre l'échéancier de décembre 2018. Ouais. C'est à peu près ça.
C'est tout?
C'est ça. Okay. Peut-être qu'on va atteindre l'échéancier, mais c'est sûr qu'on va dépasser les coûts.
Sauf que c'est un PPP?
Oui, c'est un partenariat public-privé.
Donc, il n'y a pas d'impact sur les Canadiens?
S'il en parle, c'est parce qu'il doit avoir un impact sur les Canadiens.
Ben, pas nécessairement. Je sais pas.
Ben, moi non plus.
OK. Parce que quand tu as un partenariat public-privé, si on sort du cadre, je donne un exemple. On livre un pont, ça coûte tant, voici les échéanciers, parfait. Mais avec des conditions de sol X. Si demain matin, on trouve qu'il y a plus de grenouilles quelque part, puis il faut échanger, ça, c'est des conditions inexplicables. Il y a des frais. C'est pas au partenariat public, c'est pas au secteur privé d'assumer tout cela. Mais si c'est un PPP traditionnel, habituellement, les écarts de coûts, regardez ce qui se passe à Gatineau avec Gartin, le maire s'époumonne à dire que ça sera VMSO qui va ramasser les écarts de coûts. J'en crois pas un seul mot. On a déjà 20 dérogations mineures pour sauver des coûts à VMSO. C'est le premier exemple. Non. Mais en théorie, un PPP, pas un Canadien qui absorbe l'écart.
Bon, ben, je vais citer mon professeur d'université, Bertrand Labasse, qui disait « Il n'y en a pas de différence entre la théorie et la pratique. » Sauf en pratique.
OK, merci Eric. OK, ça fait le tour du rapport du vérificateur général. Phoenix, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. 790-2572, 819-790-2572. J'ai quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec Phoenix? Est-ce qu'on scrappe la patente? C'est ça ma question. 790-2572. J'aimerais, surtout si vous êtes des employés du gouvernement fédéral, vous avez été touché par Phoenix, quelle est votre solution? 790-2572, j'attends vos appels maintenant.